Jean-Luc Vuillard a présenté son dernier livre, 14 juillet.
Un des ultimes temps forts du Festival des correspondances de Manosque et un grand moment vécu par le public sur la place Marcel Pagnol. Nous entendrons Éric Vuillard dans un instant. Ce dernier nous a habitués à revisiter l'histoire, la colonisation, la guerre de 14, Buffalo Bill et aujourd'hui un certain 14 juillet 1789 sont des récits pleins d'intelligence érudite, de sensibilité et d'humour avec un vrai talent d'écriture. Pour ce roman, l'auteur s'est intéressé aux oubliés de l'histoire de ce jour fondateur de la nation française, éreinté par le régime royal de droit divin, écœuré, révolté des injustices et autres privilèges. Ce jour-là, le peuple de Paris marche en masse vers la Bastille, symbole de l'autorité royale dans la capitale. On connaît la suite, mais on ignorait les vies, les noms et les parcours de tous ces anonymes. On dit qu'ils étaient 200 000, soit le tiers de la population du Paris de l'époque, et il fallait bien ça pour faire tomber la forteresse. L'émeute fera ce jour-là 98 morts, tous oubliés par les chroniqueurs, à part le gouverneur Delaunay, pauvre nobliot se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, mais passé dans la postérité. Le mérite de Vuillard est de donner vie et corps à ces charretiers, cafetiers, ouvriers, sans travail, souvent illettrés, mais poussés par la force du nombre et leur conviction pour résister aux balles, crier, courir, organiser l'assaut, s'armer et s'équiper pour pénétrer dans l'enceinte convoitée et l'ouvrir, l'offrir à la foule. Tout ce petit peuple héroïque trace ce jour-là une ligne fondatrice pour l'humanité tout entière. Un roman épique, mais qui trouve aussi une étrange résonance à l'heure actuelle, où existent encore des Bastilles qui ont pour nom finance, racisme, repli identitaire, injustice, égoïsme, et où les décalages entre dirigeants ou financiers n'ont rien à envier à ceux des Necker, Marie-Antoinette, Louis XVI et consorts. Le 14 juillet, Éric Vuillard explique la France et nous donne les raisons supplémentaires de l'aimer et la défendre. Je vous propose d'écouter l'écrivain, qui est aussi historien et cinéaste, évoquer son dernier roman et d'abord le choix du 14 juillet. Éric Vuillard.
Un livre n'est sans doute possible qu'à un moment et pas à un autre, pas seulement du tout pour des raisons psychologiques, mais pour des raisons que les auteurs, comme tout le monde, nous sommes pris, enfin les écrivains, dans le monde social. Donc il était sans doute pas possible, je crois, il y a une vingtaine d'années, d'écrire sur ce thème, pour la raison qu'au fond, le 14 juillet est notre fête nationale, mais c'est une émeute dont il s'agit. Et je pense qu'il y a une vingtaine ou une quinzaine d'années encore, les grandes dates révolutionnaires subissaient une dévaluation importante. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, il me semble que quelque chose se réveille, qu'un peuple se cherche. Et le 14 juillet, donc, non seulement est notre fête nationale et il commémore une émeute, mais surtout, je crois qu'il ouvre dans l'histoire le moment d'une histoire collective. C'est-à-dire, pour la première fois, un peuple, là en l'occurrence le peuple de Paris, se soulève et son soulèvement est victorieux. Et ce soulèvement victorieux aura des répercussions évidemment en France, mais des répercussions universelles. Et du coup, nous en avons des témoignages. On a beaucoup de relations du temps qui ont été cette fois-ci écrites par des artisans, des petits commerçants qui ont donc laissé une trace de leur 14 juillet. Et puis les archives aussi que l'on peut retrouver, les archives de l'ordre, celles du Châtelet, celles de la police ou des tribunaux, elles aussi contiennent des procès-verbaux de personnes, soit qui ont ramené le 14 juillet des cadavres d'émeutiers, soit encore parfois de personnes que l'on arrête, puisqu'il y a une répression au soir du 14 aussi. En même temps qu'on célèbre à l'hôtel de ville de mauvaise grâce un petit peu les émeutiers victorieux, d'un autre côté la police s'active aussi et arrête un certain nombre de gens, d'agitateurs au fond qui sont les mêmes. Donc on retrouve ainsi dans les archives des témoignages, des noms, des faits, des professions. Et pour la première fois, il me semble, le peuple, ce petit peuple d'artisans, d'ouvriers, de commerçants de Paris, laisse une trace dans l'histoire.
On sent que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes documenté, donc en tant qu'historien, d'ailleurs c'est assez normal, sur justement ce petit peuple, entre guillemets, mais ce sont des guillemets qui sont terriblement admiratifs de ma part, puisque c'est ce petit peuple qui a fait la Révolution et qui a fait notre grande histoire en fait.
C'est en tant qu'écrivain que je l'ai fait, mais disons un peu avec les méthodes de l'histoire, enfin, qui consistent surtout à dépouiller les archives, à les recouper auparavant, mais avec ce rapport un peu particulier qu'ont sans doute aussi les historiens, mais qui s'accusent, je veux dire, dans l'écriture, c'est que quand on est écrivain, le fait même d'écrire, le geste d'écrire, emporte quelque chose. C'est-à-dire des formes de vérité n'apparaissent pour nous, sans doute, ou davantage en tout cas, au moment même de l'écriture, dans son élan propre. Alors évidemment, il faut néanmoins se documenter, savoir quelque chose, connaître, savoir de quoi l'on parle. Et là, en l'occurrence, comme je le disais, on a des archives importantes. Donc, dans un premier temps, si j'ai choisi le 14 juillet, c'est une chose qui est venue aussi au long cours. Un sujet s'impose. Je ne l'ai pas choisi un beau jour en me disant « Tiens, je vais écrire sur le 14 juillet ». C'est que tout simplement, comme beaucoup de gens, je m'intéresse à telle ou telle période, à tel ou tel événement, à telle ou telle chose, et que je lis. Et qu'à un moment, quand j'ai le sentiment d'avoir une idée dessus et que mon désir s'y arrime, alors je me mets à écrire. Et dans ce cas-là, je fais des recherches plus profonde, enfin j'approfondis mes recherches, et là en l'occurrence je suis allé aux archives où j'ai passé pas mal de temps à consulter les procès-verbaux, et puis ensuite à lire à la Bibliothèque nationale. On trouve des relations, par exemple celle de Claude Chollat, qui était marchand de vin à Paris et qui était sans doute illettré, mais qui a pu payer tout de même quelqu'un pour lui dicter ou lui raconter son 14 juillet. Et ce que ça a de très émouvant, c'est que d'abord, c'est une relation limite. C'est un homme qui, normalement, n'aurait pas dû laisser de traces puisqu'il ne sait pas écrire. Mais grâce au tiroir-caisse au fond de sa boutique, il a pu payer un écrivain public et lui raconter ses faits et gestes. Mais surtout, ce que ça a d'intéressant, c'est qu'il le fait dans une prose, du coup, très singulière. L'écrivain public a beau remettre de l'ordre dans tout ça, au fond, il le fait sans planter le décor. C'est-à-dire qu'il nous raconte ses faits et gestes sans nous dire vraiment où ça se passe. Parfois, on est un peu perdu. Il n'a pas appris à l'école, au fond, à raconter une histoire. Et puis aussi, les faits se bousculent. Quand un personnage intervient, il ne l'a pas présenté comme un romancier le ferait auparavant. Si bien qu'on a la naissance à la frange de l'oralité, au fond, la naissance d'une langue qui va peut-être être, pour une part, la langue du roman, en fait, un petit peu plus tard. C'est-à-dire quelque chose qui colle à l'action, qui colle aux subjectivités en fait individuelles, et surtout qui, moi, me permettait de suivre des protagonistes véritables du 14 juillet de la Révolution française, et puis d'en faire des personnages, c'est-à-dire au fond de les incarner, de les mettre en scène, et du coup d'opérer, je pense, un rééquilibrage, puisque quand on nous raconte le 14 juillet, jusqu'à présent, les historiens s'appuient sur les archives très strictement, eux ne mettent pas en scène, ne racontent pas, si bien qu'on a souvent un conte, 98 morts du côté des émeutiers, et puis ensuite le récit, qui, comme il est très bien documenté, est raconté dans le détail, de la mort du gouverneur, lynché par la foule. Alors qu'au fond, le gouverneur est responsable en grande partie des 98 morts qui précèdent. Et sur ces 98, les historiens racontent peu de choses, ça reste un chiffre, et les chiffres sont froids. Si bien que je crois que l'écriture, elle, en incarnant quelques-uns de ces morts, en les plaçant dans la foule, en tâchant de faire un roman collectif, leur redonne au fond un visage et nous les rend plus touchants. Notre empathie, au fond, je crois, rééquilibre les choses et rend à ces émeutiers, aux ces 98 morts, ce qui est un chiffre énorme, ce qu'il aurait dû, au fond.
Il y a également votre œil de cinéaste qui nous sert, puisqu'on vous suit quasiment caméra à l'épaule pour aller, par exemple, faire une reconnaissance de corps au niveau des catacombes, et c'est assez marquant. Et puis, il y a votre style, Éric Vuillard, un style particulier. Alors, j'ai choisi trois phrases, parce qu'elles sont très courtes, vos phrases, avec votre humour, qui est un petit peu spécial et que vous utilisez fort bien. Alors, ça se passe évidemment pendant l'émeute. On se presse dans la cour, on l'oublie, il s'évapore. Son épopée n'a duré que quelques minutes. C'est ça, les petites gens?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il laisse une trace, l'oubli les guette toujours. Claude Chollat, que j'évoquais par exemple, ne nous raconte qu'une toute petite partie de sa journée, au fond. Il oublie sans doute beaucoup de choses, il donne peu de détails. Quant aux autres, qui sont des personnages que je trouve à l'intérieur des relations des autres, la plupart du temps, ils apparaissent un instant dans la relation de Chollat ou de Humbert ou dans un procès verbal. Si bien que je crois qu'il était à la fois important de les incarner, mais aussi de marquer cet endroit de leur disparition. Pour le cinéma, peut-être, mais il y a aussi ce fait, justement, que ce que je disais de la relation de Claude Chollat nous incite, au fond, à l'accompagner, en quelque sorte, caméra à l'épaule. On a d'autres relations du temps, comme celle, par exemple, de Dussault, qui, lui, n'était pas, en fait, à la Bastille, était à l'hôtel de ville, et nous raconte, en fait, une sorte de prise de la Bastille vue du ciel. C'est un lettré, il est traducteur de Juvénal, donc il raconte très bien, il a tout vu, tout entendu, il sait tout. Sauf que, non seulement il n'y était pas, mais en plus, il n'avait pas l'intention, lui, que la Bastille tombe. Si bien que je crois qu'entre la Bastille vue du ciel et la caméra à l'épaule, il y a non seulement, en fait, une différence, évidemment, d'intensité, peut-être de justesse et d'adéquation aux faits, mais aussi une distinction politique. C'est-à-dire, au fond, vue du ciel, avec un narrateur omniscient, nous sommes du côté des notables, de ceux qui ne souhaitent pas qu'elle tombe, alors que caméra à l'épaule, parmi la foule, nous sommes avec les émeutiers victorieux.